Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Give them hope, give them strength, give them life.
Bonjour à toutes et à tous. Alors que la guerre ne faiblit pas en Ukraine, quel sort pour les réfugiés? En Allemagne, plus d'un million d'Ukrainiens sont arrivés depuis le début des combats. Pour la plupart, ils sont logés en foyer. Mais l'accueil chez les particuliers fonctionne aussi très bien, beaucoup mieux que prévu. La plateforme en ligne qui a permis de mettre en relation logeurs et logés tire un bilan très favorable des mois passés et les particuliers se disent prêts à renouveler l'expérience. Reportage à Berlin, dans une famille d'accueil signée Delphine Nerbollier.
Anya ne cesse de rire. À la fin du mois de mars, cette Ukrainienne de 21 ans, originaire de Kharkiv, à la frontière avec la Russie, a pourtant quitté son pays avec sa cousine et une amie. Les trois jeunes filles sont parties seules, direction Berlin, où elles ne connaissaient personne. Arrivées à la gare centrale, elles ont cherché un logement via des plateformes internet, avec succès.
Nous sommes arrivés à 16h à la gare. Nous avons commencé à chercher un logement sur un site internet. Nous avons envoyé peut-être 20 messages et Marie nous a répondu. Elle avait une chambre. Et le choc, c'est qu'elle nous a écrit qu'elle pouvait venir nous chercher dans une heure. On n'en est pas revenu. Quoi ? Une heure ? Wow.
Depuis plus de 6 mois, ces trois jeunes filles vivent donc chez Marie Feucht, Daniel et leurs deux enfants dans un pavillon du sud de Berlin avec un grand jardin, un chien et des lapins. Elles vivent à trois dans une petite pièce avec deux grands lits, un mini coin cuisine et une salle de bain séparée. Elles reçoivent une allocation de l'État allemand et Marie Feucht, qui les accueille, reçoit aussi une aide pour les loger. Si cette Berlinoise a décidé d'ouvrir sa maison, c'est grâce à son fils Théo.
Dès le début, nous avons suivi les événements et expliqué à nos deux enfants, Elisabeth et Théo, que deux pays se disputaient. Notre fils de 5 ans, à l'époque, nous a dit « Il y a de la place encore à table, on peut accueillir des gens ». Alors, en quelques jours, nous avons arrangé toute la maison. Au départ, nous voulions accueillir des gens comme dans une auberge pour quelques jours seulement. C'est ce qu'on a fait pendant quelques semaines. Et puis, j'ai souvent entendu dire que des gens mal intentionnés voulaient accueillir des jeunes filles. Quand Anya m'a écrit et qu'on a parlé par vidéo, mon cœur de mère a bondi. Elles sont si jeunes.
Depuis le 24 février, 1 million de réfugiés ukrainiens sont arrivés en Allemagne, soit autant que lors de la crise dite migratoire en 2015. Si la très grande majorité d'entre eux sont logés dans des foyers d'accueil, l'accueil chez les particuliers est devenu un vrai phénomène. C'est ce que constate Félix Oldenburg. Il dirige l'une des plateformes numériques qui a permis de loger plus de 50 000 Ukrainiens chez des particuliers.
C'est la première fois que l'accueil gratuit chez des particuliers joue un tel rôle dans une situation de crise. Sans eux et sans cette solidarité, l'afflux de réfugiés n'aurait pas pu être aussi bien géré. Le plus important, c'est que cette solution peut de nouveau être utilisée cet hiver, alors que les arrivées augmentent, mais aussi lors des prochaines crises. Ces particuliers peuvent permettre de soulager et de compléter notre système d'accueil.
Selon une enquête réalisée cet été auprès de 3200 familles d'accueil, 80% d'entre elles se disent satisfaites de leur expérience et désireuses de recommencer. Leur plus gros souci concerne les procédures administratives. Chez Marie Feucht, le sujet est source de blagues.
On en plaisante quand de nouveaux papiers arrivent. Les filles ont déjà 2 classeurs pleins. Cela nous fait rire. Mais ce n'est pas le plus difficile pour moi. Le plus difficile, c'est que j'oublie leur histoire, d'où elles viennent. Et quand on parle, qu'on écoute les informations, cela me saute de nouveau au visage.
Cette famille d'accueil se prépare désormais à voir ses 3 invités quitter le nid. Anya et son amie cherchent un logement pour devenir indépendantes. Une mission difficile dans une capitale allemande en manque structurel de logement. Leur séjour chez Marie pourrait durer encore un petit peu.
C'est un exemple qui pourrait inspirer d'autres pays comme la France. Une police de l'environnement chargée de traquer les pêches illégales, les pollutions, les incendies, les braconnages ou les trafics de plantes. Une telle police existe déjà en Espagne. Ces 2000 agents placés sous l'autorité de la garde civile sont connus sous le sigle CEPRONA. Et voilà 35 ans que cette unité protège la nature. C'est le reportage de Diane Cambon.
Il est 9h du matin, l'activité bat son plein dans la halle aux poissons du port de Punta Umbría en Andalousie, au sud-ouest de l'Espagne. Jesús et Alberto, deux agents du CEPRONA, reconnaissables à leurs uniformes vert kaki, entrent le plus discrètement possible. Ils ont pour mission de vérifier s'il n'y a pas eu d'infraction dans la pêche du jour et si les anchois ont bien une taille adulte. Muni d'une règle en métal, Alberto mesure au hasard une dizaine de poissons encore frais.
On fait un contrôle aléatoire des bacs de poissons et on tolère une marge de 10% sur la taille du poisson par rapport à la taille réglementaire, qui est de 9 cm minimum pour les harengs. En dessous, cela veut dire qu'ils ont été pêchés trop jeunes. Ici, tout est OK, sauf qu'on a découvert que la caisse qui doit contenir environ 400 kg de poissons porte une étiquette fausse, car elle indique seulement 6 kg. Donc cette erreur est une infraction, car chaque bateau a un quota de pêche à respecter, et là ils indiquent un nombre de kilos inférieur à ce qu'ils ont pêché pour pouvoir garder une marge et pêcher et vendre plus le jour prochain. On va saisir la marchandise et elle sera envoyée à une banque alimentaire. Le marchand de poissons va lui avoir une amende.
La surveillance de la pêche est une des activités prioritaires de ces agents de la garde civile d'Andalousie, mais pas seulement. Jesús, chef de la brigade de Huelva, travaille depuis plus de 30 ans au sein de la CEPRONA. Comme tous les agents de cette unité, il suit régulièrement des formations sur l'environnement pour pouvoir intervenir dans divers domaines. À bord de sa voiture tout terrain, il explique avec fierté son travail quotidien.
Nous avons un éventail d'actions très large. En été, on s'occupe surtout, par exemple, des incendies. Nous enquêtons sur les incendies et nous faisons de la prévention. Nous devons aussi contrôler les déversements d'eau usée ou toxique. Nous sommes en charge également des constructions illégales et des dommages causés au patrimoine historique.
Les agents de la CEPRONA sont confrontés à un délit désormais très répandu, celui du vol d'eau. Alors que l'Espagne connaît une sécheresse chronique avec des températures désormais extrêmes, l'eau est devenue un bien précieux et rare, notamment en Andalousie. José est gendarme de la CEPRONA depuis 20 ans dans la région de Grenade. Il fait la chasse aux puits illégaux, ces forages qui pompent l'eau des sous-sols et assèchent les nappes souterraines.
Là, on va voir si ce puits est légal. Selon la justice, le propriétaire puise de l'eau sans aucun contrôle. Il doit mettre au moins un compteur d'eau. Par les temps qui courent, avec le manque d'eau que nous avons, le vol est devenu très commun pour l'usage domestique, mais surtout dans l'agriculture. Et c'est très facile de détecter ces puits illégaux, car on repère les plaques solaires qui produisent l'énergie pour faire marcher le moteur qui pompe l'eau.
Comment savons-nous qu'il y a pozo? Pour les plaques solaires, qui sont les qui alimentent l'énergie à la bombe.
Le CEPRONA est doté de moyens techniques comparables à ceux de la police scientifique et ses agents se déplacent toujours avec un mini laboratoire dans le coffre de leur voiture, comme l'explique Rosset.
Nous vérifions la qualité des eaux usées pour voir s'il n'y a pas de déversement de liquides illégaux, notamment toxiques. Pour ça, nous disposons d'un matériel pour prendre des échantillons et procéder aux premières analyses. Puis, selon la gravité, nous envoyons les échantillons à un plus gros laboratoire. Il enverra ensuite les résultats à la justice qui décidera s'il s'agit ou pas d'un délit contre l'environnement.
Le CEPRONA travaille main dans la main avec le parquet de l'environnement, une institution judiciaire spécialisée dans les délits contre l'écologie. Le nombre de dossiers instruits par ce parquet qui aboutissent à des condamnations est en hausse. En 2020, près de 4200 affaires ont été traitées et 4000 personnes ont été condamnées.
Écoutez, vous entendez ça?
Oui.
Des machines.
La crise du Covid a révélé le talon d'Achille de l'Europe, sa désindustrialisation. Les pénuries de masques, de paracétamol, de pièces détachées, de composants électroniques ont relancé le débat sur la relocalisation de certaines industries cruciales. Mais comment réindustrialiser aujourd'hui alors que les prix de l'énergie sont au plus haut? C'est l'œil européen de Franceline Beretti cette semaine.
L'industrie, c'est polluant, c'est bruyant, c'est moche et souvent, ça sent mauvais. Mais c'est indispensable à notre souveraineté. Ça fait même partie de notre identité. James Watt, l'inventeur de la propulsion à vapeur, était anglais. Les trains sont nés en Europe, les fonderies, les machines à tisser et le socialisme. Oui, avec l'industrialisation arrive la question sociale.
Il y a un excédent d'offres de travail. C'est pour ça que les travailleurs reçoivent des salaires de merde et doivent travailler bien trop longtemps.
Vous pouvez aussi lire Karl Marx pour une analyse un peu plus fine. En 2 siècles, l'industrie européenne a évolué. Les progrès techniques ont transformé les machines, les processus, les produits et les savoir-faire. Mais elle a toujours été une grande consommatrice d'énergie. Écoutez ce reportage de la RTBF en Wallonie, dans une usine d'acier inoxydable.
Nos plus gros moteurs ici font plus de 12 mégawatts et nous en avons une dizaine pratiquement sur le site. Et nous chauffons des plaques d'acier, plusieurs centaines de tonnes par heure à 1200 degrés, ce qui représente de très grosses consommations de gaz naturel.
Elle est de très bonne volonté, cette aciérie.
L'entreprise possède près de 65 000 panneaux sur ces deux sites. S'il recouvre une petite partie de sa consommation, c'est clairement insuffisant dans le contexte énergétique actuel.
Sans blague. En Belgique, ces entreprises très énergivores représentent 230 000 emplois. Certaines ont déjà dû arrêter leur production. Que faire ? L'Allemagne a sorti le portefeuille. 200 milliards d'euros pour que l'énergie soit accessible à tous, ménages comme entreprises. 200 milliards. La plupart des pays ne peuvent pas suivre. Berlin leur fait de la concurrence. Heureusement, il y a l'Union européenne. Emmanuel Macron a un plan tout prêt.
On va convaincre les autres Européens. On va mettre en place un système qui fait que le gaz qu'on utilise pour produire de l'électricité, on va lui mettre un plafond de prix.
Oui, ça a l'air facile. Sauf qu'en Italie, on est plus prudent. Mario Draghi, toujours président du Conseil, est timidement optimiste sur la possibilité d'un plafonnement du prix du gaz auquel s'opposent l'Allemagne et les Pays-Bas.
Les choses sont en train de bouger. La Commission présentera au Conseil européen du 19 octobre une proposition avec 3 éléments. Faire diminuer les prix, introduire un mécanisme de solidarité et un début de réforme du marché de l'électricité.
C'est pas encore gagné. Peut-être que cette crise sera une opportunité pour l'Europe, que les 27 vont réussir à s'unir pour sauver leurs industries, car c'est un choix politique. Berlin, en 2019, a annoncé une stratégie industrielle interventionniste pour augmenter la part de ce secteur dans son PIB d'ici 2030. Paris suit le même chemin avec son France Relance. C'est donc un choix politique qui se fait pour le moment à l'échelle nationale.
Les photos conservées de mon enfance à Nice le prouvent. Nous formions une famille heureuse. Nous voici, les 4 frères et sœurs, serrés autour de maman. Quelle tendresse entre nous.
On n'a pas fini de revisiter la vie de Simone Veil, femme politique française décédée en 2017. Ancienne ministre de la Santé, c'est elle qui a légalisé l'avortement en France. Elle a été la première présidente d'un Parlement européen élu au suffrage universel. Mais Simone Veil est aussi cette adolescente juive déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans avec toute sa famille. Seules les 3 sœurs, Simone, Denise et Madeleine, appelées Milou, en sortiront vivantes. Le réalisateur David Teboul en a tiré un livre et un documentaire, Simone Veil et ses sœurs. Il a raconté à Juliette Rangeval comment est née sa fascination pour Simone Veil et pourquoi il a voulu faire ce film choral mêlant les archives et les voix de ses 3 sœurs.
Je souhaitais faire un film avec elle et elle ne souhaitait pas faire un film avec moi et sur elle et avec elle. Puis j'ai dû insister, j'ai dû appeler le secrétariat. Et Simone Veil était tout prêt et a pris l'écouteur et m'a dit clairement, on va passer demain matin, c'était assez tôt, il était 8h30, ça va durer 3 minutes pour vous dire non. Et à ce moment-là, on a eu une conversation qui a duré presque 3 heures.
Et c'était une femme intimidante en plus, donc.
Oui, alors bizarrement, comme elle avait été très dure au téléphone, j'étais sûr que ça allait très bien se passer. C'était la première fois que je rencontrais Simone Veil. Et au cours de cette conversation, elle, ne sachant pas où nous allions aller, je ne sais pas, elle m'a demandé ce qui m'intéressait chez elle.
Et
je lui ai répondu, votre chignon. Et elle m'a répondu, non pas en tant que Simone Veil, mais en tant que Simone Jacob. Et donc, à ce moment-là, elle m'a parlé de l'importance des cheveux au camp, et particulièrement l'importance d'avoir appartenu à un des rares convois où les déportés n'ont pas été complètement rasés. Et ce récit a entraîné tous les autres récits.
Même la façon de manger, nous n'avions pas de cuillère, et nous étions souvent plusieurs à manger dans la même gamelle, qui était en général une gamelle pour 3, et où chacun recrachait ce qu'il ne voulait pas manger. Et nous naissions souvent avec ma mère et ma sœur. Nous avons de la chance, nous sommes trois. Alors au moins, nous avons la même gamelle.
Moi, j'ai toujours été fasciné par les histoires de filles et particulièrement l'histoire de sœurs. Et ces trois sœurs, elles se parlent sans filtre parce que ces lettres ne sont pas supposées être lues par des tiers. Et donc, elles sont très jeunes. Cette correspondance démarre, elles ont 8 ans et finissent à la mort d'une des sœurs.
Denisette chérie, tout d'abord, excuse ce papier, mais je n'en ai plus et sans ça, il faut que je retarde cette lettre jusqu'à lundi. Et comme ce soir, je suis bien disposée, il faut en profiter. Pourquoi suis-je bien disposée? Je ne sais vraiment pas. Peut-être parce que j'ai passé une très agréable après-midi à la maison à parler avec maman.
Donc c'est à la fois un livre sur le trio, ou plutôt le double duo. Le chiffre 3, ça ne fonctionne pas. C'est le chiffre 2 avec toujours
une troisième personne.
Et c'est vrai que j'ai choisi l'angle de Milou, parce que Milou était au centre de la vie de Simone, comme Yvonne, la maman de Simone, était au centre de sa vie. Et la disparition de Milou transforme Simone Veil. C'est la perte la plus tragique après la mort de sa mère. Parce que c'est déjà Simone Veil, en 52, ne sera plus tout à fait la même femme.
Elle meurt dans un accident de voiture. En quoi ça transforme Simone Veil? Quelle femme devient-elle après la mort de sa sœur?
Comment dire? Est-ce que Simone Veil serait devenue Simone Veil si sa mère avait survécu? Elle se serait certainement beaucoup occupée de sa maman. Après la mort de Milou, il y a un grand vide. Donc elle va se consacrer à sa vie de femme, sa vie de couple et à ses engagements. Simone Veil, après 52, sera une femme très active au sein du conseil de la magistrature. Elle sera un magistrat très sensible aux conditions de détention des femmes, particulièrement des femmes du FLN. Tout ça est bien sûr lié aussi à ce qu'elle avait éprouvé, elle, qui avait vécu à Birkenau, à Auschwitz, des conditions extrêmes et barbares de détention. Donc c'est vrai que c'est plus tout à fait la même femme.
Vous aviez une amitié avec Simone Veil.
Oui.
J'imagine qu'une partie des archives que vous avez dans ce livre, dans ce documentaire, c'est elle qui vous les a remises. Mais tout le reste et la relation avec l'autre sœur survivante, comment est-ce que vous avez eu accès à tout ça?
D'abord, j'avais toujours pensé, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, qu'il fallait que j'interroge l'autre sœur, qui est une femme formidable, qui est une femme qui s'est engagée à 19 ans dans un réseau de résistance, qui a été une agente de liaison. Denise a été déportée en tant que résistante, tant qu'elle a vécu ce qu'on appelle la détention de prisonniers de guerre, qui est très dure, mais qui n'a rien à voir avec la barbarie, des conditions de détention dans les camps de la mort.
J'étais arrêtée par hasard, par un barrage allemand. On n'avait pas le droit de circuler. Il y a eu un barrage de la Feldgendarmerie. Ils ont demandé les papiers. J'étais dans un taxi avec tout un parachutage, et quand ils ont ouvert les bagages, ils ont vu des postes émetteurs, entre autres.
Denise était la seconde. Milou était la sœur aînée. Et Milou a fait tout ce lien, mais elle meurt en 52. Grâce à un travail de recherche, j'ai retrouvé des documents qui donnent au livre, au film aussi, les récits que Milou a écrits 24 heures après le retour des camps.
400 mètres carrés, 800 femmes, enfin 800 larves aux os saillants sous les loques pouilleuses. Deux rangées de têtes au milieu et une contre chaque paroi.
Le récit est tellement bouleversant, tellement cru. Et pendant quelques années, j'ennuyais beaucoup Simone parce que je voulais toujours qu'elle me raconte. Et un jour, Simone m'a dit « Ce que vous voulez me faire dire, moi je ne peux pas vous le dire. C'est ma sœur qui l'a écrit. »
Une interview à retrouver dans sa version longue sur le site de RFI, rubrique podcast Accent d'Europe. Le documentaire est à voir sur France.tv et le livre publié aux éditions des Arènes. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. À demain.